Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre. Deux heures où le rire et le savoir vont main dans la main et plus si affinité. Autour de trois personnages historiques très différents, mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, celui d'avoir été empoisonné. Orchestra hit. Pour en parler avec moi, celui qui ne ferait pas long feu s'il était victime un jour d'empoisonnement, lui qui est déjà torchon chiffon carpette après un malheureux apéro, un jet 27 et il entend Dieu.
Qui me parle ?
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Oui, aujourd'hui nous partons à la rencontre de ces figures de l'histoire qui ont été empoisonnées. D'abord la favorite, maîtresse officielle du roi Charles VII et l'une des plus célèbres empoisonnées de l'histoire, Agnès Sorel. Mais qui l'a empoisonné ? Ben, on verra ça tout à l'heure. Puis je vous raconte la folle histoire de Georgi Markov, romancier, dissident bulgare, empoisonné en pleine rue et en pleine guerre froide aussi. Ah, la Russie et les poisons, c'est une vieille histoire, hein ? Et plus près de nous, Mathieu, vous évoquerez une vedette de la chanson qui, elle aussi, a été empoisonnée ?
Oui, Stéphane. Alors, si certaines stars de la chanson nous ont empoisonnés par leur chanson... Par exemple, d'autres se sont empoisonnés tout seuls, voire même empoisonnés en ce qui concerne Robbie Williams. Et oui, comment s'est-il empoisonné, Stéphane ? Eh bien, en mangeant trop de croustibates. Vous verrez, c'est une histoire assez bouleversante. C'est vrai, en plus.
J'ai hâte de l'entendre de votre bouche. Avec nous, comme chaque jour, eh bien, des chroniqueurs de talent. Elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, Paracelse, médecin du 16e, affirmait « Tout est poison, rien n'est poison. » C'est la dose qui fait le poison. Hein. Là, vous parliez de croustibates. Si on en mange deux, je pense qu'on court guère de risques. Prenez par exemple la jusquiame. C'est à la fois un excellent traitement contre la toux, mais à forte dose, c'est un poison mortel qui cause la mort d'Hamlet dans la tragédie de Shakespeare. En tout cas, quel que soit le poison, entre le 15e et la première moitié du 18e, tout le monde sait, tout le monde tient pour une évidence que le meilleur contrepoison est le bézoard. Et c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure.
Bézoard, drôle de nom en tout cas. Oui, Olivier Pouls est avec nous aussi, Stéphane, notre expert gastronomique. Bonjour Olivier.
Bonjour les amis. Alors là, il n'y a aucun danger d'être empoisonné avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Imaginez des pommes de terre en robe des champs, un fromage qui vient couler, enrober tout ça. Je vais vous parler de la raclette, de son histoire. Et je vais même mordre un tout petit peu sur le terrain de mon ami David Castellopez, puisque je vous raconterai même, mais qui a bien pu inventer ce fameux appareil à raclette, vous savez, qu'on a tous maintenant chez nous, qui prend beaucoup de place, mais qui est extraordinaire.
Vous êtes... Alors, attendez, on va faire un petit point là-dessus. Stéphane, vous avez deux appareils à raclette. C'est-à-dire qu'à l'époque où on dit que les dîners, il ne faut pas être plus de 6, vous avez deux appareils à raclette pour pouvoir être 12. Quoi.
Vous savez, maintenant, parce que j'en avais un convivial. Et maintenant, on le fait par individuel.
Vous avez passé à la bougie ?
Oui, exactement.
Vous l'avez à la bougie ?
Oui, parce que c'est moins d'électricité,
c'est
plus écolo.
Mais alors, en revanche, il faut avoir le temps. Hein.
Oui, mais on a le temps maintenant. Vous savez, à partir de 6h le soir, moi, à partir de 6h le soir, je fais ma raclette. Mais alors, excusez-moi, il y a une chose que je n'ai pas comprise. Vous parlez d'un chroniqueur gastronomique.
Oui.
Et on parle de raclette.
Ah bah, mais il fait un peu... Parfois, il y a des plats un peu compliqués.
Mais Olivier, est-ce qu'on peut considérer que la raclette, c'est de la gastronomie française ?
Non, mais alors, gastronomie française, pas tout à fait, vous allez le voir. Enfin, c'est quand même sacrément bon, avouez-le.
Oui. Mais oui, ce qui compte, c'est le goût, Stéphane. Arrêtez d'être snob.
Et puis... Non. C'est l'hôpital qui dit... qui se fout de la charité. On dirait...
Oui, c'est vrai.
C'est le camembert qui dit Roquefort, tu pues.
Et Stéphane, avec nous également, celui qui aurait pu faire partie de nos personnages du jour, vu qu'il s'était lui aussi auto-empoisonné à la suite d'un jeu à la con.
Ah oui. Qui c'est qui peut avaler le plus de tabasco ?
Bonjour David Castello-Lopez, toujours vivant ?
Toujours vivant. Je vais faire quelque chose aujourd'hui. Vous voyez, quand vous téléchargez quelque chose sur un ordinateur, il y a une petite barre de progression qui vous dit à combien de pourcentage.
Ne dites pas que vous avez enquêté sur l'origine de la barre.
De la barre de progression.
Il l'a fait.
Elle a une origine et on la verra ensemble.
Il l'a fait.
Incroyable.
Il n'a aucune limite, Stéphane. Aucune limite. Restez avec nous. Enfin, nous jouerons à Bern to be alive. Ce quiz qui, chaque jour, empoisonne un peu plus la réputation de Stéphane Bern. Je suis comme le Kremlin. Je nie en bloc toute forme de responsabilité. C'est pas moi qui écris les questions. Mais tout de suite, découvrons un des empoisonnements les plus polémiques de l'histoire, les plus mystérieux aussi, celui d'Agnès Sorel. Stéphane s'échauffe la bouche et il arrive. Pas de doute, nous avons affaire à un vrai professionnel qui prend son métier très à cœur.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Qui dit favorite du roi ne dit pas favorite de tout le monde. Bien au contraire. Agnès Sorel est l'une des plus belles femmes de son temps. Extrêmement gâtée par son amant, elle prend la place de la reine et exerce une influence immense sur le roi. Mais lorsqu'on a autant de pouvoir, il faut s'attendre à avoir beaucoup d'ennemis. Pour bien comprendre, revivons son ascension, avant d'en arriver au poison qui vous intéresse, Mathieu.
Oh oui.
Le roi de France, Charles VII, ne pensait pas que la visite de la duchesse Isabelle de Lorraine en mars 1443 bouleverserait sa vie à tout jamais. Bouche bée, ses yeux globuleux prêts à sortir de leurs orbites, le voilà foudroyé par tant de beauté. Âgé d'une vingtaine d'années, ce n'est pas sa convive, mais bien l'une de ces demoiselles de compagnie qui ressemble à un ange. Son teint d'albâtre contraste avec ses yeux azur et sa chevelure dorée qui encadre un front majestueux resplendit. La silhouette est tout aussi divine. Une poitrine ronde et haut placée, mise en valeur par un décolleté carré, elle s'appelle Agnès Sorel. Charles VII sait déjà qu'il ne pourra plus se passer d'elle. Fou de désir, il la transfère à sa cour l'année suivante et en fait la dame de compagnie de son épouse. La pauvre reine Marie d'Anjou ne peut rivaliser. Elle a 40 ans, l'âge du roi, et elle est laide. Si laide qu'on raconte dans le royaume que la guerre de 100 ans pourrait se terminer rapidement. Il suffirait qu'elle regarde les Anglais dans les yeux, ils partiraient en courant. Charles VII lui donne quand même 14 enfants. Il faut dire qu'il n'a pas non plus le look du prince charmant. Il est vilain comme tout, avec son grand nez, ses traits lourds, son expression molle, ses yeux cernés. Ajoutons à cela qu'il est pauvre et ne règne que sur un tout petit bout du royaume depuis Bourges, les Anglais occupant le sud-ouest et la Normandie en pleine guerre de 100 ans. Heureusement qu'il a de la conversation pour charmer sa belle. Né vers 1422 en Picardie, dans une famille de petite noblesse, Agnès Sorel a reçu une éducation exceptionnelle. Placée dès 12 ans à la cour d'Anjou, l'une des plus brillantes cours d'Europe, elle a de l'esprit et manie l'art de la conversation avec perfection. Charles VII ne va donc pas se contenter de la trousser dans un coin comme une vulgaire servante, il veut conquérir son cœur. Pour ce faire, il lui mène une cour assidue dans la tradition de l'amour courtois. Au bout de plusieurs semaines de rendez-vous galants dans les jardins médiévaux de la cité royale de Loches, Agnès Sorel se laisse enfin séduire. Leur relation est révélée au grand jour lors des fêtes royales de Nancy en 1444. Première maîtresse officielle d'un roi de France, Agnès Sorel est couverte de cadeaux par son amant. La cour est sidérée lorsque la favorite reçoit le plus gros diamant qu'on ait jamais vu au prix exorbitant de 30 000 écus. Vient ensuite le manoir de Beauté-sur-Marne qui lui confère le surnom bien mérité de Dame de Beauté.
C'est magnifique, Beauté-sur-Marne, ça existe encore ?
Mais c'était drôle, on disait la Dame de Beauté, à la fois parce qu'elle était très belle et parce qu'elle était la seigneur, la femme qui régnait sur Beauté-sur-Marne. Agnès Sorel s'approprie les fourrures d'hermine réservées à la reine, c'était un privilège royal, et se fait même couronner sur un trône d'or, un enfant sur les genoux. Le peintre Jean Fouquet en fait carrément une madone. Bien avant Marie-Antoinette, Agnès Sorel lance des modes que copient toutes les cours européennes. Elle porte des traînes de plusieurs mètres de long, des bonnets pointus si haut qu'elle passe difficilement les portes, et des sous-vêtements qui compriment le sein, lui donnant un aspect rebondi. Elle s'épile les sourcils pour rendre son front plus large, plus majestueux, utilise des crèmes à l'huile d'olive, à la cire d'abeille et même à la bave d'escargot pour prévenir les rides, déjà à l'époque, aujourd'hui c'est très tendance. Elle blanchit sa peau et ses dents et se rougit les lèvres avec une poudre à base de coquelicot. Le maquillage est pourtant interdit par l'Église, il ne faut pas transformer le corps que Dieu nous a donné. Elle s'en fiche. Elle est la presque reine. À l'instar de Jeanne d'Arc avant elle, Agnès Sorel veut libérer le royaume de l'envahisseur. Elle désespère devant l'inaction de Charles VII et utilise alors un stratagème à la hauteur de son ambition. Un matin, elle dit au roi avoir rencontré son astrologue. Celui-ci lui a prédit son avenir, lui affirmant qu'elle serait auprès d'un grand roi. Mais comme Charles VII ne veut pas se battre, peut-être parlait-il du roi d'Angleterre ? Piqué au vif, le roi fait lever les armées, les victoires s'enchaînent, le territoire est peu à peu libéré, la fin de la guerre de 100 ans est proche. Femme de pouvoir, Agnès Sorel sait placer ses hommes auprès du roi, en particulier son grand ami, certains diront amant, Jacques Cœur. Ce commerçant, qui a amassé une fortune colossale, est devenu l'argentier du roi. Il est si riche, en témoigne son magnifique palais, je ne sais pas si vous le connaissez,
ah,
Mathieu,
non, j'ai pas eu l'occasion
son
de le
palais
visiter.
À Bourges, le plus beau du royaume, qu'il prête de l'argent à tous les grands du royaume. Le roi fait même appel à lui pour financer son armée et reprendre la Normandie aux Anglais. Mais Agnès Sorel n'a pas que des amis. Vous vous en doutez, cette favorite qui se prend pour la reine de France en dérange plus d'un. Comme le fils de son amant, le futur Louis XI, très attaché à sa mère, le dauphin ne supporte pas l'influence d'Agnès Sorel, d'un an seulement son aîné. Il voit d'un mauvais œil la légitimation des bâtards de Marie, Charlotte et Jeanne. La colère culmine lorsqu'il est condamné à l'exil après une altercation avec la maîtresse de son père. Agnès Sorel en agace plus d'un. Elle pensait épater la galerie en arrivant à Paris, sauf que la ville est en ruine, infestée par les rats et les épidémies. Alors imaginez l'indécence de ces somptueuses toilettes. Les Parisiens la surnomment la Ribaude, la reine de la puterie. Comme si ça ne suffisait pas, une nouvelle menace se profile. Elle vient de sa propre cousine Antoinette de Meignelay, qu'elle a fait venir à la cour comme nourrice pour ses enfants. Mais c'est du roi dont veut s'occuper la cousine. Antoinette veut prendre la place de favorite. Une place qu'Agnès Sorel va hélas bientôt libérer. À la fin de l'année 1449, alors que le roi combat les Anglais, Agnès Sorel est au logis royal de Loches. Elle attend un quatrième enfant. Un jour, elle reçoit trois lettres anonymes au message alarmant. Un attentat se prépare contre le roi. Il faut l'avertir immédiatement. En plein hiver, voilà qu'elle part en catastrophe vers la Normandie. Une folie pour une femme enceinte de 7 mois. Après 10 jours de voyage, Agnès Sorel rejoint le roi à Jumièges et s'installe au manoir de la Vigne où sa santé se détériore rapidement. Elle fait une fausse couche et souffre d'une terrible maladie, l'ascaridiose. Des vers pouvant aller jusqu'à 40 cm habitent son système digestif. Tétanisée par la douleur, elle pense que le mal vient d'un sperme fétide, celui du roi, et qu'elle est attaquée par le diable. En février 1450, Agnès Sorel appelle Dieu une dernière fois, avant de s'éteindre, à l'âge seulement de 28 ans. Le roi est sous le choc. La disparition subite de sa bien-aimée ne peut être naturelle. À coup sûr, c'est un empoisonnement. Un coupable est désigné, Jacques Cœur, son ami et exécuteur testamentaire, l'argentier du roi. Mais voilà qu'à son procès, on ne parle plus du meurtre d'Agnès Sorel, mais de crime de lèse-majesté. Pendant plus de 5 siècles, beaucoup se sont demandé si Agnès Sorel avait vraiment été empoisonnée. La réponse est oui. C'est ce qu'a prouvé une étude toxicologique coordonnée par le docteur Philippe Charlier en 2005, après l'ouverture du tombeau de la favorite. Résultat, du mercure a été retrouvé dans ses poils et cheveux. Certes, le mercure est utilisé pour soigner l'ascaridiose, mais la dose retrouvée est 10 000 fois supérieure au traitement habituellement prescrit. Un accident peut-être. S'il s'agit d'un meurtre, mais alors qui a tué Agnès Sorel? Le futur Louis XI? Le dauphin comploteur? Antoinette, la cousine qui veut prendre sa place? Jacques Cœur, bien qu'on ne comprenne pas trop pourquoi? Tout est possible dans cette partie de Cluedo. Aucune preuve n'a permis de lever le mystère. L'histoire retiendra seulement que la belle Agnès Sorel, dame de beauté, est bien morte, empoisonnée.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Agnès Sorel, nous avons le plaisir d'être avec celui, Stéphane Ladi, qui a coordonné l'étude toxicologique en 2005 après l'ouverture du tombeau d'Agnès Sorel, le docteur Philippe Charlier. Bonjour docteur.
Bonjour.
Bonjour Philippe Charlier, vous êtes médecin légiste, anatomopathologiste.
C'est dur à dire ça Stéphane.
Oui, c'est pas
vous
ça. Vous êtes l'homme qui fait parler les morts, souvent illustres d'ailleurs. Oui. Vous avez donc fait parler les restes d'Agnès Sorel en 2005, soit 555 ans après sa mort. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Eh bien, paradoxalement, elle était assez loquace. Ce qu'on a fait, c'est qu'à Loches, en Touraine, nous avons retrouvé une urne funéraire qui était un vulgaire saloir à cochons dans lequel le squelette avait été placé en 1777 et depuis, il avait été ouvert de temps en temps pour inspection. Et c'était pas un squelette, en fait. C'était vraiment des fragments d'un corps embaumé dans lequel il y avait encore des viscères, des produits d'embaumement, des cheveux, un visage qui était encore collé sur le crâne. Donc c'est un squelette qui a raconté beaucoup de choses. C'était vraiment de la médecine légale appliquée appliquée à l'histoire ou à l'archéologie.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, c'est plutôt une momie que vous avez retrouvée ?
Oui, c'était une momie. Alors une momie en kit, hein, en l'occurrence, en tout petits fragments, puisqu'elle rentrait dans un grand saloir à cochons d'une quarantaine de centimètres de hauteur. Oui. Mais malgré tout, on a pu reconstituer un tout petit peu le puzzle. On avait des dents, on avait des ossements, et on a reconstitué ce qui restait du corps d'Agnès Sorel, et on a pu la faire parler, on a pu trouver une cause de décès, des circonstances de mort, et même retrouver la date de ses différentes grossesses à partir de l'étude des dents.
Et alors donc, la cause de la mort, hein, ce que révèle l'enquête, c'est qu'Agnès Sorel a été intoxiquée au mercure. Ça, c'est la seule certitude qu'on a sur sa mort à ce jour.
Alors, la cause de sa mort, elle est certaine. Elle est morte d'une intoxication aiguë au mercure, qui a pris à peu près 48-72 heures. On a retrouvé un taux de mercure vraiment monstrueux, si on peut dire, à la fois dans ses poils, dans ses cheveux, et également dans ce qu'on appelle le jus de putréfaction. C'est pas très ragoûtant à l'heure du goûter, mais c'est à peu près ce à quoi ça ressemble. Et ce taux, c'est à peu près 10 000 à 100 000 fois la dose thérapeutique. On prenait du mercure à l'époque quand on avait des vers intestinaux, et on a retrouvé des petits fragments de ces vers dans ce qui restait du corps. Des vers qu'on appelle ascaris, et puis on a retrouvé également des pollens de fougères mâles. Donc tout le traitement, elle avait tout le traitement contre ces vers, sauf que un des produits du traitement, le mercure, il y en avait 10 000 à 100 000 fois la dose normale, ce qui correspond pour le coup à une intoxication.
Donc c'est mais c'est volontaire, parce que on a accusé à l'époque Jacques Coeur et puis le futur Louis XI d'un empoisonnement criminel, mais au fond c'est simplement un traitement, mais dont elle a abusé, ou il y a vraiment empoisonnement?
Eh bien, on ne sait pas. Vous savez, la fonction des médecins légistes, c'est de dire quelle est la cause de la mort. Et ensuite, c'est aux enquêteurs, aux policiers, à la justice, de dire qui a mis le poison. Et là, je dois vous dire que j'atteins un peu les limites de ma compétence. On a parlé de Jacques Coeur, mais Jacques Coeur a dit « Vous pouvez m'accuser de tous les maux, mais surtout pas les poisons d'Agnès Sorel. Ça, je suis innocent. » On a parlé de Louis XI. En effet, il y avait une vraie défiance entre les deux. On a pu parler du camp anglais. Il y a d'autres hypothèses. Hein. On peut pas, par exemple, passer à côté l'hypothèse du suicide. Moi, c'est vraiment une des hypothèses qui m'intéresse le plus. Elle venait de perdre son quatrième et dernier enfant, puisque dans le volume corporel, dans ce qu'on a retrouvé dans l'urne funéraire, on a retrouvé également trois ossements, deux vertèbres et un petit fragment du crâne de son quatrième et dernier enfant qu'elle avait accouché quelques jours avant. Et malheureusement, l'enfant n'a pas survécu. On a compris pourquoi. Il n'avait que 7 mois in utero, donc c'était un grand prématuré. Donc, on peut comprendre, elle est en disgrâce, elle vient de perdre son quatrième et dernier enfant, tout va mal à la cour. Voilà, c'est une hypothèse qu'on soulève, mais évidemment, c'est aux historiens de dire si l'hypothèse tient la route ou pas. Mais il ne faut pas oublier quand même cette hypothèse du suicide, malheureusement.
Alors, Agnès Sorel empoisonnée, donc ça, on le sait. Mais par qui, ça, on ne le sait pas. Et surtout, par quel type de médicament, avec quel type de médicament elle aurait pu ingérer tant de mercure, docteur?
Alors, à l'époque, le mercure, quand il était ingéré, c'était sous la forme d'une sorte de petite mie de pain qu'on tasse et dans laquelle on amalgame une sorte de grosse pilule, de grosse gélule, et qu'on amalgame cette mie de pain avec du mercure. Soit du mercure liquide, le mercure qu'on connaît dans notre thermomètre, qui suinte de certaines pierres, soit avec du cinabre, c'est-à-dire du sulfure de mercure, qui a une couleur un peu rougeâtre. L'erreur de dilution, elle peut être assez rapide, mais c'est quand même quelque chose qui est assez fourbe, assez difficilement quantifiable et mesurable. En tout cas, c'est sous cette forme-là que c'était ingurgité. On n'ouvrait pas un baromètre et on le buvait, c'était pas comme ça du tout.
Moi, je le visualisais comme ça.
Mais oui. En plus du mercure, Philippe, vos recherches ont trouvé la trace de fougère mâle. Quelle différence avec la fougère femelle et surtout, c'est quoi cette fougère mâle?
Oui, alors ça, c'est une classification d'apothicairerie, la fougère mâle. C'est une fougère qui sert à paralyser complètement les vers intestinaux qu'on appelle ascaris. Mmh. Ça paralyse les fibres musculaires lisses de ce vers, qui est des petits vers de 5 à 15 centimètres à peu près, qui se répartissent entre la bouche et l'anus et qui sortent par pelote d'une trentaine, d'une quarantaine. Et ce qui est un peu embêtant, parfois, ça fait des occlusions intestinales. Et donc, ça paralyse. Et quand on associe ceci avec du mercure, le mercure provoque une purge intestinale, une débâcle diarrhéique, et du coup, les vers sont expulsés parce qu'ils peuvent plus s'accrocher à la paroi vu qu'ils sont paralysés. Je vous mime pas, mais vous imaginez un peu à quoi ça ressemble.
Oui, on imagine.
Et on a retrouvé en fait ces deux composés dans le fluide de décomposition de d'Agnès Sorel et dans quelques résidus de ses intestins qui étaient encore présents dans le volume de la momie, si on peut dire. Donc elle était vraiment traitée pour ça. Seul problème, c'était pas la dose de fougère mâle, c'était la dose de mercure qui était beaucoup trop importante.
Alors, on a parlé de sa mort. Revenons un peu à sa vie, Agnès Sorel. Elle ne passait pas inaperçue avec ses toilettes. Vous, c'est un détail assez bling-bling qui vous fascine, je crois.
Non, moi, il y a un détail qui me plaît beaucoup. C'est le fait que c'était probablement, d'après les données historiques, une des premières femmes non reine et non impératrice à porter un diamant. Avant, c'était vraiment l'apanage et c'était vraiment la spécificité des femmes dirigeantes. Personne d'autre ne pouvait ou n'avait le droit, en théorie, en tout cas en public, de porter de tels bijoux. Et elle, reconnaissant vraiment son statut de seconde reine, si on peut dire, ou d'équivalent de reine, eh bien, elle avait l'autorisation de porter ce diamant. Je ne parle pas évidemment de ses décolletés exubérants, de ses très longues traînes qui faisaient 15, 20, 30 mètres, j'exagère bien entendu, mais en tout cas beaucoup trop long par rapport à la normale. C'était vraiment une sorte de vamp, une sorte d'autre. C'est comme ça, en tout cas, que la tradition a gardé un souvenir d'elle. Ce qui est certain, de façon très pragmatique, c'est qu'elle ne passait vraiment pas inaperçue quand elle se présentait en public, devant la cour ou ailleurs. C'est-à-dire tous les regards étaient tournés vers elle, et généralement pas vers ses pieds.
Mais c'est vrai que c'était une star de l'époque, on aurait dit une fashionista. Mais elle avait un ego assez surdimensionné hein, aussi. Une question, Philippe, c'est que on révèle pas quelque chose d'un secret d'État, mais c'est vrai qu'on a participé ensemble à remettre Agnès Sorel dans son tombeau, puisqu'elle était d'abord inhumée dans le logis royal de Loche, et puis maintenant elle est à la basilique Saint-Ours de juste à côté. Et comment se fait-il qu'on se souvienne encore d'Agnès Sorel? Elle a quelque chose de plus, parce que des maîtresses royales, il y en a une flopée, si je puis me permettre.
il y en a beaucoup. C'est même une grande tradition des dirigeants de l'État français. Agnès Sorel, elle a un truc de particulier, et c'est quelque chose que notre ami Pascal Dubriset a bien montré, c'est que c'est cette femme qui a fait rentrer la Renaissance en France, véritablement. Elle n'est pas arrivée seule, elle est venue avec Jacques Coeur, qui a introduit le commerce, les longues voies de circulation, les épices, les soieries, les biens précieux, à travers les comptoirs, ce qu'on appelait les escales du Levant. Elle a également fait venir des écrivains, des artistes, etc. C'est vraiment une femme qui est pivot. Alors, soit c'est elle, soit c'est son entourage, soit c'est la période qui est propice, mais Agnès Sorel correspond vraiment en France à cette fin du Moyen-Âge et à ce début de la Renaissance. Pas forcément sur le plan politique, la politique c'est pas elle, mais au moins sur le plan des arts. On est vraiment sur des arts qui sont florissants, sur cette exubérance. Elle fait venir beaucoup d'artistes d'Italie, etc. Vraiment, elle importe la Renaissance en France. Et c'est probablement pour cette raison-là qu'on se souvient d'elle, en plus des portraits qui la magnifient et qui quasiment la divinisent.
On a évoqué son ego surdimensionné. Est-ce que ça contredit pas quelque part votre thèse du suicide? Est-ce que...
Ah là, pour le coup, non. Et là, c'est l'expérience de médecin légiste qui parle. Moi, j'en ai connu et malheureusement autopsié des personnes qui avaient un ego surdimensionné. Je ne le savais pas avant, parce que moi, j'ai travaillé sur leurs cadavres, mais c'est ce que disait l'autopsie psychologique de ces personnes, c'est-à-dire avant leur décès. Et malgré tout, ne supportant pas par leur ego surdimensionné que quelque chose leur échappe, à commencer par leur propre existence, leur propre vie, eh bien, ils ont mis fin à leur jour. Donc non, un ego surdimensionné, ce qu'on appelle une hypertrophie du moi, n'est pas un facteur qui s'oppose au suicide. Bien au contraire.
Stéphane n'est pas à l'abri, alors attention.
Non, mais je n'ai pas d'ego surdimensionné.
Au contraire.
Une question, Philippe. Est-ce qu'on a une émotion particulière quand on s'attaque au cadavre d'une personnalité illustre plutôt que le commun des mortels, Mathieu, moi, vous voyez, quelqu'un de normal, quoi. Mais est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier quand vous découpez comme ça Agnès Sorel ou par exemple Diane de Poitiers ou d'autres?
Alors déjà, vous, je pourrais pas vous autopsier parce que je tiens trop à vous, donc non, ça c'est juste impensable. Mais sinon, Agnès Sorel, je me souviens de l'ouverture du tombeau, et lorsque j'ai ouvert avec Pascal Dubriset et Jean-Yves Couteau, quand on a soulevé la grosse assiette qui recouvrait cette urne, on avait le crâne qui était en fait une tête momifiée avec ses deux orbites qui regardaient. C'était quelque chose d'extrêmement impressionnant qui avait été posé vraiment de façon théâtrale pour qu'à l'ouverture, on ait le visage d'Agnès Sorel qui nous saute dessus quasiment. Ça, c'était vraiment très, très, très impressionnant. Ensuite, non, l'étude s'est faite dans une froideur scientifique assez importante parce que ça oblige à un détachement complet et à une objectivité. Mais c'est vrai qu'ensuite, je me souviens de cette émotion, la réinhumation d'Agnès Sorel, comme plus tard la réinhumation de Diane de Poitiers, par exemple, et d'autres personnages historiques. Ce moment-là, oui, il était extrêmement, extrêmement profond et extrêmement émouvant, parce que c'était rendre hommage à ces personnes, qu'elles soient bonnes ou fausses. En tout cas, on réparait une erreur de l'histoire qui avait été cette profanation. C'est ça qui est beau avec la paléopathologie, avec la médecine légale de l'histoire, c'est que ça nous permet de réhabiliter un tout petit peu, en tout cas de rendre à nouveau un tout petit peu vivant, palpable et réel des personnages historiques que sinon on voit un peu comme des icônes, comme des peintures ou autres. Maintenant, on les voit de façon beaucoup plus réaliste. Et je me souviens que la messe de réinhumation d'Agnès Sorel à Loches était extrêmement émouvante, extrêmement.
Merci beaucoup Philippe Charlier. Je vous confie une petite info sur Stéphane. Il a entrepris un régime détox depuis quelques temps et il a noté quelque chose qui pourrait l'intéresser parce qu'il fait un régime 100% jus. Si vous pouviez lui envoyer quelques fioles de jus de putréfaction, jus de putréfaction réputé très détox, je pense que ça pourrait vraiment l'aider dans son régime. Merci d'avance.
C'est pour ça que Philippe Charlier est très mince. C'est qu'à force de triturer les cadavres, ça lui coupe l'appétit. En tout cas, merci Philippe Charlier. Votre actualité, c'est la parution d'une nouvelle autopsie. Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel qui vient tout juste de paraître aux éditions Talendier. Et figurez-vous, Mathieu, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission.
Je vais vous dire, il faut qu'on
fasse. On va faire une spéciale fantôme autour de Philippe Charlier. D'abord parce que c'est le meilleur de sa spécialité. Merci beaucoup, Philippe.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont elle a seule le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors aujourd'hui, Clémentine, plus qu'un secret, c'est un remède. Vous nous parlez des bézoards d'Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, on connaît, enfin, vous voyez ce que c'est, les Anne d'Autriche, c'est la mère de Louis XIV.
Vous me l'avez déjà raconté.
Mais les bézoards, par contre, là...
Qu'est-ce que c'est ?
Oui, ça c'est un mot étrange, hein, parce que c'est un mot qui vient du persan, du mot persan patzar, qui veut dire qui préserve du poison. Le bézoar, c'est un mot qui est issu de la littérature médicale arabe et persane, et on commence à le voir apparaître dans les écrits médicaux européens au XVe siècle. Et donc jusqu'au milieu du XVIIIe, on croit dur comme fer que les pierres de bézoar neutralisent venin, poison, expulsent l'organisme toutes les matières ou humeurs morbides qui l'encombrent, y compris la mélancolie. Et d'ailleurs, vous parliez d'Anne d'Autriche. Il y avait toute une collection de bézoards, mais la reine Marie de Médicis aussi. Et elle était entourée de deux grands dépressifs qui avaient une santé assez fragile, qui étaient Louis XIII et Richelieu. Et c'était deux grands dépressifs. Donc pour eux, un petit peu de poudre de bézoard matin et soir, c'était un remède.
Et la poudre, il la sniffait ?
Alors non, pas du tout. Vous la rapiez et puis vous la buviez.
Ah, d'accord.
C'était très bon aussi pour les Richelieu. Il avait aussi beaucoup d'hémorroïdes. Mais c'est ça qui est bien avec le bézoard, si vous voulez, c'est que ça soigne à peu près tout.
On l'utilise plus beaucoup aujourd'hui.
Oui, c'est un petit peu moins couru comme remède. Alors, qu'est-ce que c'est qu'exactement un bézoard ? On appelle ça aussi une pierre de fiel ou une perle d'estomac. Alors, c'est une concrétion pierreuse qui se forme dans l'estomac ou dans le rein de certains animaux, comme les chèvres ou les antilopes, des bovidés, des bestioles qui mâchent, si vous voulez. Et jadis, on croyait que le bézoard était la larme d'un animal fabuleux, mi-chèvre, mi-cerf, appelé le tragélaphe. C'est beau, un tragélaphe, un animal imaginaire. Et paré de toutes les vertus, le bézoard est le remède de bonne femme incontournable de la Renaissance. Alors attention, par remède de bonne femme, je vous parle pas d'une matrone, je vous parle d'un remède de bona famae, famae comme fameux, c'est-à-dire de bonne réputation. Ah. Quand vous parlez d'un remède de bonne femme,
c'est très intéressant. Oui. Ah, je ne savais pas.
Ah, merci pour ce bon point. Mettez un petit demi-point de côté.
Vous allez peut-être partir dans le quiz avec un point d'avance.
Une petite bûchette pour le quiz tout à l'heure. Alors, il est bien connu, voyez-vous, que comme les potions à base de poudre de corne de rhinocéros ou de licorne, un remède à base de poudre de bézoard est considéré comme un présent tout aussi précieux qu'un bijou ou qu'une pièce d'argenterie. Ça guérit tout. Aussi sûrement que la poudre de corail blanc soigne la peste, soulage les maux de dents et éloigne les démons très importants. Et quand les souverains européens à l'époque s'adressent des cadeaux, les pierres précieuses, la vaisselle d'or, les étoffes, les porcelaines, les larmes de Tolède voisinent toujours avec des bézoards. Ainsi, Le roi Philippe II d'Espagne offre à sa future belle-fille 24 bagues avec des rubis, sympatoche. 1000 perles, 200 paires de gants, 200 épées, 200 paires de pantoufles, 200 paires de pantoufles et 300 perles, pierres de Bézoard. Et oui, et sous la Renaissance, vous en avez forcément déjà vu parce que les orfèvres les plus réputés montaient des Bézoards sur or filigrané et sur argent. Alors évidemment, aujourd'hui, l'objet a un peu perdu de sa superbe hein, et aussi de sa poésie, parce que autrefois, on vous aurait parlé de larmes, de Tragelaf, c'était quand même assez poétique. Mais aujourd'hui, on parle de phytobézoards, c'est-à-dire ces concrétions qui se forment donc dans l'estomac ou le rein de bovidé à partir de débris végétaux. On parle aussi de trichobrézoards, abézoards, là, c'est des poils ou des cheveux, surtout des poils accumulés par le léchage, ça finit par faire une sorte de pierre. Et puis, on parle même de lactobrézoards, c'est-à-dire de bézoards comme une pierre. Imaginez un gros caillou constitué de l'écaillé. Alors évidemment, c'est beaucoup moins romanesque que les larmes de Tragelaf.
Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce qu'on a médicalement, enfin scientifiquement analysé pierres de bézoards pour comprendre leur pouvoir?
Non, elles n'ont aucun pouvoir du tout. Je vous déconseille fortement de prendre du bézoard pour lutter contre le Covid. Non. En tout cas, mais par contre, si vous voulez en voir, les garçons, vous allez au musée de l'école vétérinaire de Maison Alfort. Il en expose toutes les couleurs et de toutes les tailles. Et alors moi, mon coup de cœur, personnellement, c'est les micro-bézoards de bovidé. Comprenez, des perles de vache. Hein. Alors, on ne rit pas parce que Marie de Médicis et Anne d'Autriche, toutes reines de France qu'elles étaient, elles se seraient battues pour en posséder. Ça vous laisse fantois. Mais allez à Maison Alfort voir les bézoards. Il y en a qui font la taille d'un œuf d'autruche. Hein. Et vous imaginez la vache qui se trimballe ça dans l'estomac.
Ah oui, c'est terrible.
En tout cas, c'était un excellent anti-poison. Et si vous êtes un peu déprimé, voilà, avec le confinement, eh bien vous allez vous râper un peu de bézoards tous les matins.
Non, mais il ne faut pas le prendre puisque ça ne sert à rien. Merci beaucoup Clémentine Portier-Kaltenbach. Étonnant ces bézoards.
Qui reste avec nous. Étonnant bézoards, effectivement Stéphane. Et si je l'empoisonnais? C'est la question que commence sérieusement à se poser Stéphane Bern au sujet de Clémentine lorsqu'arrive le quiz, un moment de l'émission que Stéphane apprécie autant que Socrate la ciguë.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Alors, je sais Clémentine que Stéphane est un ami de longue date, mais mon conseil, méfiez-vous quand même. Si un jour il vous invite à prendre le thé et que le thé a une drôle de couleur, et que Stéphane vous dit, avec la même douceur qu'un agent du KGB...
Oui, venez, n'ayez pas peur.
C'est qu'il en aura probablement marre de se faire humilier dans le quiz et qu'il aura décidé de vous faire une Navalny, comme on dit dans le petit milieu de l'espionnage. Restez donc toujours sur vos gardes avant de jouer à Burn to be Alive, notre célèbre quiz. Question numéro 1, elle est pour vous, Stéphane, comme d'habitude. Alors, dans Historiquement Vôtre, comme chez bon nombre d'historiens ici ou là, j'ai entendu des choses pas toujours sympathiques sur Mao. Et pourtant, grâce à lui, la sieste est inscrite dans la Constitution chinoise. Vrai ou faux ?
Dans la Constitution.
Dans la Constitution, comme je vous le dis. Est-ce qu'il y aurait du bon chez Mao, finalement ?
Non, ça fait pas très industrieux, fait, non ?
Oui, c'est c'est très possible qu'il avait demandé à ce qu'on marque une pause et qu'on fasse la sieste. Mais de là à l'inscrire dans la Constitution... Que là, ils sont bien embarrassés, maintenant, si c'est dans la Constitution chinoise.
Ah oui, c'est sûr. C'est gravé dans le marbre.
Surtout dans un pays où le travail est une telle...
Mais c'est pourquoi pas, au fond...
c'est pas dans la Constitution corse, plutôt, non ?
Ah, nous ne pas. Alors, attention.
Alors là, il a du sang corse.
Moi, j'ai
du sang
corse.
Un cas. Attention.
Je dirais oui. Écoutez, oui, j'ai envie d'y croire, parce que c'est une belle histoire. Évidemment, je n'en sais rien, je confesse, mais je dis oui.
Vous avez gagné.
C'est quand vous ne savez rien que vous avez bon, Stéphane. C'est ça qui est fascinant, fascinant avec vous.
Oui,
c'est riche d'enseignements, ce quiz.
Oui.
Alors donc, c'est vrai, c'est l'article 43, ça date de la proclamation de la République populaire en 1949. Les travailleurs ont droit au repos pendant le travail, si besoin. L'objectif est une meilleure productivité, bien sûr. C'est le shui ou jiao, qui signifie, évidemment, le sommeil de midi. Enfin, essayez un petit peu de suivre quand même, Stéphane. Enfin, le
sommeil de midi.
Parce que la sieste, souvent, c'est la mi-journée.
Bah, c'est post-prandial. Ah,
il peut c'est pas faire la sieste n'importe
déjeuner.
Quand, non plus. Non. Pas exagéré, quand même. Question numéro 2 pour vous, Clément.
La sieste à la Constitution, c'est excellent.
La République du Tchad est une république autonome vis-à-vis de la France depuis 1958. L'année suivante, un drapeau est choisi et c'est exactement le même que celui de la Roumanie. Vrai ou faux ?
Le drapeau du Tchad serait le même que celui de la Roumanie. Ce qui me paraît curieux, c'est que deux drapeaux aient pu, sur une longue période, être totalement identiques. On aurait voulu y remédier ou ajouter un symbole. Je verrais bien un drapeau identique à un détail près. J'ai du mal à imaginer que deux drapeaux puissent être totalement identiques. Ça serait très gênant pour les deux pays et très, très offensant, très humiliant. Je vais répondre faux.
Vous avez...
Stéphane portera peut-être réclamation puisque vous auriez eu bon dans tous les cas. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Vous êtes certaine de marquer un point, Clémentine. C'est pas très équitable, mais l'équité,
non, c'est pas équitable.
L'équité vient du cœur alors que la justice vient de la raison. Bref.
Elle vient de loin, celle-là.
Le Tchad et la Roumanie ont le même drapeau composé de bandes verticales bleu, or et rouge, donc c'est vrai. Mais le bleu de la Roumanie est un bleu cobalt, là où celui du drapeau tchadien est un bleu indigo. Il est donc à la fois le même et pas le même.
Oh, c'est beau.
Vous avez marqué le point, quoi qu'il arrive. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Je rappelle l'interdiction de consulter son téléphone portable, surtout. Ça n'a aucun intérêt avant que j'ai posé la question, Stéphane.
C'est la raison pour laquelle...
Voilà. Ça n'a rien d'anticipé en étant déjà sur Wikipédia, dans les starting blocks au moment où je pose la question. Posez ce téléphone. 1889, Exposition universelle de Paris. La Tour Eiffel accueille ses tout premiers visiteurs. Parmi eux, Buffalo Bill. Vrai ou faux ?
Oui, vrai.
Ah, vous y étiez.
Oh, mais il est venu à Paris.
Ça paraît curieux, mais vous savez, c'est comme Victor Hugo.
Il est allé après à Thomery, chez Rosa Bonheur. C'est là où il a laissé son costume de Sioux. Je vous invite d'ailleurs, quand ça va rouvrir, à aller voir le costume de Sioux de
Buffalo Bill. Je pense que ça sera la première chose que je ferai quand
on pourra. Tout à fait, tout à fait. Ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller visiter ce château.
Chez Catherine Brault, qui a racheté le château atelier de Rosa Bonheur. Voilà.
J'espère en tout cas que vous avez bien répondu à cette question, parce que là, vous êtes vraiment affirmatif.
Ah oui.
Vous avez gagné.
C'est gagné, Stéphane. Et oui, quelle culture. Gros succès dès le début pour la Tour Eiffel. 12 000 visiteurs par jour et pourtant les ascenseurs ne sont pas encore en service. Il faut monter les 1710 marches comme ça, à pied. Parmi les premiers courageux, donc William F. Cody, des cheveux longs, un large couvre-chef et des cuissards de fauve. Ce n'est pas Clémentine Portier-Kaltenbach, mais bien Buffalo Bill qui a gravi les marches.
Mais par contre, Clémentine Portier-Kaltenbach peut vous raconter qu'il reste un piston de l'ascenseur originel de la Tour Eiffel qui est régulièrement graissé du saindoux belge avec un guipon qui est une sorte de pinceau qui sert pour l'accastillage des bateaux. Et ça, c'est pour moi, c'est un mystère absolu. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas graisser le piston de la Tour Eiffel avec du saindoux français ? Je vous pose la question, je la laisse.
Et pourquoi un piston ? Et c'est pas tous les pistons
qui
sont pas graissés.
Non, parce qu'il y en a d'autres qui sont. Il reste un piston hydraulique, les autres doivent être maintenant, j'imagine, électriques. Mais il reste un très ancien, très...
Vous me direz dans quel ascenseur c'est le piston ancien que je l'évite, au cas où. Question numéro 4, elle est pour vous Clémentine, attention, elle va vous départager. Les combinaisons spatiales d'Apollo 11 ont été conçues par Pletex, le roi du soutien-gorge américain. Vrai ou faux ?
Ah, Pletex, écoutez, qu'un producteur de lingerie s'intéresse à des questions d'élasticité, de légèreté, de tension sur une bretelle de soutien-gorge et par là même éventuellement à des textiles particuliers pour l'aventure spatiale, pourquoi pas ? Ça me paraît pas. Je crois que vous alliez me dire d'ailleurs Pletex, vous alliez me dire Pampers, qui serait aussi tout.
Je ne vous ai pas dit Pampers.
Alors moi Pletex. Je dirais que oui, c'est vrai.
Vous avez gagné.
Et vous recollez au score. Deux partout, magnifique. Alors,
ça
c'est
ça
vrai,
vous plaît
c'est
pour
vrai.
La cinquième question.
Oui, ça m'arrange, oui, effectivement. Oui. Et c'est encore le cas aujourd'hui, figurez-vous. Ils sont conçus, donc, ces combinaisons spatiales par une filiale de Pletex, des soutiens-gorge en dentelle, mais donc aussi des soutiens-gorge sans armature, des cœurs croisés, mais aussi des airbags pour des modules d'atterrissage pour les futures missions sur Mars. Oui. Un entreprise qui a su se diversifier, et c'est important. Question numéro 5, la question de rapidité. Stéphane, vous êtes prêt ?
Je suis prêt.
Alors, attention, je vais vous le dire tout de suite. Clémentine part avec une longueur d'avance vu qu'elle a écrit les questions du Trivial Poursuite sur Paris. Si à Paris, dans le premier arrondissement, vous allez dans le quartier des Halles. Alors, ne vous excitez pas. Je rappelle le principe, vous attendez bien que j'ai énoncé toutes les propositions. Dans le quartier des Halles, Stéphane,
oui.
Vous pouvez vous balader dans la rue du Pélican. C'était oui. Sous Saint-Louis, un haut lieu de la prostitution. Comment s'appelait cette ruelle à cette époque? 10 propositions.
Quoi?
10 propositions. La rue Chasse-Minette, la rue des Priapes, la rue du Service 3 pièces, la rue des Popoles, la rue du Poil au Con, la rue des Thermomètres à Moustache, la rue des Jésus, la rue des Grands Chauves, la route des Biroutes ou le Champ aux Asperges.
Poil au Con.
Stéphane?
Redites-moi les premiers parce que je...
La rue Chasse-Minette, la rue des Priapes, la rue du Service 3 pièces, la rue des Popoles, la rue du Poil au Con, la rue des Thermomètres à Moustache, la rue des Jésus, celle des Grands Chauves, des Biroutes.
Bon, pour pas dire la même chose, je dirais le Champ des Asperges.
Ça vous aurait plu, le Champ des Asperges? Eh oui. Mais non, c'est une victoire de Clémentine. Bravo. Portier catholique qui le savait. Donc oui, visiblement,
alors je le savais parce que c'est Poil au Con qui a donné Pélican, naturellement. Oui. On n'est pas allé chercher très loin, si
ah,
vous voulez.
Ah oui,
vous
oui.
Je m'attendais.
Ah, j'avais pas compris, moi. Pourtant, c'est moi qui fais les questions.
Nos aïeux avait le sens de l'humour, si vous voulez, sans vouloir trop dénaturer les noms des rues, les modifier simplement un peu. Il y a une rue pas loin aussi qui est devenue la rue du Petit Musc, qui
et
s'appelait initialement la rue de la Pute Imuse. Vous voyez, la pute s'y balade, en gros. Et on ne va pas chercher très loin. Donc, le Pélican Poil au Con, vous voyez.
On voit Paris différemment avec vous.
Oui, hein,
c'est vrai. Effectivement, en 1792, la Révolution chasse les prostituées. Du coup, la rue est appelée la rue Purgée. Et vous n'étiez pas drôle, hein, pendant. Et non. En 1806,
ça vous avait pas échappé.
C'est là que la rue devient la rue des Pélicans. C'est une belle victoire, nette et sans bavure.
Oui, je trouve aussi.
Oui, enfin, de Clément Porté Catelbach. Pas mauvais, quand même.
Non, vous avez été bon tous les deux. Vous avez été brillants, voilà. Comme souvent.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Et vous êtes au cœur de la seule émission d'histoire qui vous propose de vous cultiver sans pour autant bouder votre légitime aspiration à la déconne. Pour combler ses attentes humoristiques, il y a Stéphane Bern et ses récits toujours très précis.
Non seulement son père est mort depuis 3 ans lorsqu'il voit le jour, mais Isaac est un enfant chétif.
Depuis 3 mois, parce que si son père est mort depuis 3 ans, c'est pas son père. Sacré Stéphane. Aujourd'hui au programme, ces personnages de l'histoire qui ont été victimes d'empoisonnement.
Oui, après Agnès Sorel, je vous entraîne en Bulgarie.
Voilà. On s'y croirait, Stéphane.
Je vous rappelle que je puise dans votre banque de sons, Mathieu, en Bulgarie, sur les traces de Georgi Markov, dramaturge dissident qui finira empoisonné par les services secrets bulgares. Enfin, parmi les contemporains, Mathieu, vous évoquerez, vous, l'empoisonnement moins dramatique d'un chanteur dont je sais que vous vénérez l'œuvre.
Oui, il fait partie de mes idoles et il est, si vous voulez, mon André Dassari à moi. Il s'agit bien évidemment... de Robbie Williams, qui, contrairement à ce qu'insinuait perfidement Stéphane tout à l'heure, n'est pas mort, il fait juste une petite pause dans sa carrière. Il a en revanche failli mourir empoisonné, ou plutôt, vous verrez, empoisonné. C'est une longue histoire.
Alors, longue histoire aussi avec nos chroniqueurs de talent, David Castel-Lopez, qui nous raconte alors une histoire abracadabrantesque, les origines de la barre de progression de téléchargement qu'on a sur nos ordinateurs.
Exactement, vous vous rendez pas compte à quel point elle vous fait plaisir, cette barre. Elle est dans votre vie
parfois,
comme ça.
Parfois, elle
nous gonfle. Vous voyez, je vais vous dire, quand vous voyez qu'on est à 1% et que vous avez un truc urgent
à faire. Et vous êtes 2%. Oui. Puis,
pensez surtout à si elle n'était pas là. Voilà, ce serait encore pire. Vous ne sauriez pas du tout.
On serait dans l'inconnu totalement. Bah,
ça a été vendu avec l'ordinateur.
Oui.
Oui.
Donc, mais il y a eu une époque où elle n'était pas là. Ça, je
ah bon
dire. Et oui, Stéphane. Vous avez oublié cette époque. En revanche, elle a quasiment toujours été là.
Elle a toujours été là, c'est la raclette.
La bonne raclette.
La bonne raclette avec, vous voyez, des pommes de terre, des rats du Touquet. Et avec du fromage fendu, avec de la viande des grisons.
Ah oui, la viande des grisons qui n'est pas grasse, la viande des grisons.
Non,
c'est la viande maigre.
C'est la viande maigre.
Impeccable, le régime.
Bah oui, c'est suisse comme par hasard, les grisons.
Évidemment, chez nous, on est tanké. Alors dites-moi, Olivier Pouls, vous nous racontez l'histoire de la raclette. Est-ce que comme la tartiflette, c'est récent, la raclette?
Bah, vous allez voir qu'il y a une histoire assez étonnante avec la raclette. Moi aussi, je pensais que c'était vraiment le plat authentique paysan qu'on mangeait dans le fin fond des vallées.
Pas du
et
tout.
Puis il est arrivé un petit truc et la raclette, elle est devenue aussi très commerciale.
Ouais. Elle reste bonne quand même.
Mais elle reste bonne quand même, bien sûr.
Après la raclette, quoi de mieux, Stéphane, que de se rouler une bonne pelle?
Exactement.
par ces temps de distanciation sociale. C'est pas très indiqué, mais c'est vrai qu'on utilise ça, je vais rouler une pelle. D'où ça vient? Pourquoi on dit je vais vous rouler une pelle?
Là, j'ai vraiment hâte de le savoir.
Bah oui, ça, parce c'est que oui, je sais que vous le faites souvent.
Bon, bah, je vous sens pas.
Avec votre compagne.
Oui, ah oui.
Et surtout, vous voyez les gens auxquels vous roulez des pelles. Je vais vous rouler une pelle, vous avez
dit. Ah, il est classe jusqu'au bout, c'est Stéphane Bern.
Tout de suite, découvrons notre deuxième malchanceux de l'histoire, les amis, opposant un peu trop véhément au régime communiste. Il a été empoisonné par les services secrets bulgares. Stéphane Bern nous raconte Georgi Markov.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Oui, nous sommes à Londres, sur le pont de Waterloo, qui enjambe la Tamise le jeudi 7 septembre 1978. Un homme d'une cinquantaine d'années attend sagement son bus. Le voilà qui fait de drôles de grimaces. C'est normal, un violent poison vient de pénétrer son corps. Tic, tac, le compte à rebours est lancé. Dans 4 jours, il sera mort. Mais ça, il ne sait pas encore. Tic, tac. Comme tous les jours, Georgi Markov se rend au studio de la BBC World Service, où il travaille depuis 7 ans déjà. Mais ce jour-là ne se passe pas tout à fait comme les autres. À l'arrêt de bus, il ressent soudain une piqûre vive à l'arrière de sa cuisse droite. Il se retourne et voit un homme ramasser quelque chose par terre. Un parapluie. Rien de bien menaçant ni d'étonnant lorsqu'on connaît la météo londonienne. L'homme marmonne des excuses avec un accent étranger avant de s'engouffrer dans un taxi. Quelle bête a bien pu piquer Markov. Bon, ça va passer. Non, en fait, ça ne passe pas du tout. Notre homme est pris d'une violente fièvre dans la nuit, et le lendemain, il vomit. La piqûre, elle, est devenue une vilaine boursouflure. Avec sa femme, il fonce à l'hôpital de Hyde Park. Septicémie? Intoxication? Qu'est-ce donc? Les médecins ne se prononcent pas. L'état de Markov va de mal en pis. Sa tension artérielle est au plus bas. Son cœur s'emballe. Le dimanche, il vomit du sang. Dans la matinée du lundi 11 septembre 1978, Georgi Markov meurt après une intense agonie. À l'autopsie, on découvre une bille métallique dans sa cuisse droite. Mais que diable s'est-il donc passé? Oui, vous l'avez compris, Markov a été empoisonné.
Mais que diable n'avait-il pas enlevé cette bille à l'hôpital avant de s'en rendre compte à l'autopsie?
Je suis entièrement d'accord avec vous, mais bon, on est en 78, vous savez, c'est la préhistoire. Il faut dire que ce n'est pas n'importe qui. C'est un célèbre romancier né en 1929 près de Sofia. Georgi Markov est un ennemi du régime bulgare et donc de l'Union soviétique. Si ses premiers romans ont été très appréciés par la critique, du public et même du gouvernement, on a vite remarqué que l'écrivain y glissait des messages politiques. Markov dénonce les travers de la dictature communiste. Todor Živkov, leader autocratique de la Bulgarie, tente tant bien que mal de rallier Markov à la cause du régime pour que ses écrits servent la propagande, mais c'est peine perdue. Markov, dont le dernier ouvrage Le plafond, en cours d'impression, est interdit de publication, passe à l'Ouest en 1969. Il s'exile d'abord en Italie, puis en Grande-Bretagne, et fait la sourde oreille aux appels du gouvernement qui le somme de rentrer. Il est alors condamné par contumace à 6 mois d'emprisonnement. Dès 1975, sur les ondes de la BBC, Markov dénonce les exactions du régime bulgare et la censure de la culture. Au micro de Radio Free Europe, il s'en prend directement au dictateur Živkov. La même année, il échappe à 2 tentatives d'assassinat. Nous sommes en pleine guerre froide et dans ce climat aussi glacial que tendu, où s'affrontent les blocs de l'Est et de l'Ouest, les ennemis politiques sont des cibles à abattre. Une mission que remplissent les services secrets. En août 1978, Markov reçoit un mystérieux coup de téléphone. La voix, au bout du fil, lui apprend qu'il va mourir de cause naturelle, grâce à un poison invisible. Effectivement, aucune trace de poison n'a été révélée dans son corps après sa mort. Mais une affaire similaire qui s'est produite 10 jours plus tôt à Paris va mettre Scotland Yard sur la voie. C'est Patrick Rioux, le chef de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris, qui fait le lien. Un autre dissident bulgare, Vladimir Kostov, a lui aussi été piqué. Cet ancien membre des services secrets de la Bulgarie communiste a demandé l'asile politique à la France en 1977. Il ne voulait plus être un pion du KGB. À la sortie du métro Champs-Élysées, il ressent une vive douleur dans le dos. Aux urgences, un jeune interne évoque une piqûre de guêpe. Quelques semaines plus tard, on le réexamine et, aux surprises, on trouve une bille métallique. La même que celle que Markov avait dans la cuisse. À la différence près qu'un des 2 orifices qui bouchent la cavité de la bille est fermé.
On retrouve à l'intérieur des traces de ricine, un puissant poison issu des graines d'un arbre tropical. Rassurez-vous, Mathieu, l'huile de ricin que vous utilisez pour fortifier vos beaux cheveux ne contient pas les substances toxiques de la ricine. Poison redoutable, il est invisible car ne laisse pas de traces et déclenche des symptômes proches de ceux d'une maladie. Et puis, il n'existe pas d'antidote. Si Christophe a survécu, on ne sait par quel miracle, Marcof n'a pas eu cette chance. Le poison a opéré. Vous vous souvenez de l'homme au parapluie à l'arrêt de bus?
Oui, celui avec le drôle d'accent.
Je ne vous ai pas parlé de lui simplement pour planter le décor. Il joue un rôle dans mon récit, un rôle de la plus grande importance.
Non.
Oui, l'empoisonneur.
Dites-moi pas que c'est pas vrai. On l'a pas vu venir du tout, Stéphane.
Ah bon?
Ah non.
L'empoisonneur, c'est lui. Et l'arme du crime, vous l'avez deviné, c'est son parapluie. Surnommé l'agent Piccadilly, le tueur s'est servi de cette arme peu conventionnelle pour liquider Marcof. Un gadget digne de James Bond. Quand on appuie sur le bouton qui ouvre le parapluie, cela déclenche un mécanisme qui agit comme une arme à air comprimé. Le ressort pousse un piston qui propulse la bille métallique. Celle-ci est bouchée par une substance qui dissout la chaleur du corps humain, laissant ensuite échapper la ricine. Dès la chute de l'URSS et la destitution de Jivkov à Sofia, une enquête judiciaire est ouverte. Bon, la police politique bulgare a détruit les preuves, mais quelques pistes sont évoquées. L'ancien diplomate et écrivain russe Vladimir Fedorovski avance que le ministre de l'Intérieur bulgare a demandé au KGB de l'aider à liquider Marcof. On sait que le KGB travaille sur la ricine dans son laboratoire numéro 12, Institut de recherche toxicologique ultra secret, aussi appelé le laboratoire des poisons. On sait aussi que le parapluie provient des stocks du KGB. Les services secrets soviétiques auraient donc bien mis à disposition l'arme du crime et son mode d'emploi à leur petit frère bulgare. En 1993, un Danois d'origine italienne, Francesco Giuliano, est suspecté d'être l'agent Piccadilly, le tireur au parapluie. Mais faute de preuves, il est relâché. Et en 2013, le délai de prescription a expiré. L'affaire du parapluie bulgare reste et restera l'un des plus grands mystères de l'histoire de la guerre froide.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Guorgui Marcof, nous sommes avec l'historien Franck Collard. Bonjour Franck.
Bonjour.
Franck Collard, vous êtes historien universitaire à Nanterre, président de l'Association des professeurs d'histoire-géographie, et vous avez notamment publié « Pouvoir et poison, histoire d'un crime politique de l'Antiquité à nos jours » aux éditions du Seuil. De tous les empoisonnements tristement célèbres de l'histoire, qu'est-ce qui fait que celui de Guorgui Marcof, que je viens de raconter, est un empoisonnement tout à fait extraordinaire?
Ah ben c'est les modalités selon lesquelles cet agent bulgare est empoisonné. L'utilisation d'un objet qui paraît anodin, comme un parapluie, le poison très violent qui est utilisé, qui est, on dit, 6000 fois plus toxique que d'autres poisons qui sont pourtant déjà très forts. Et puis c'est le cadre quotidien, donc, qui peut éteindre la vigilance de celui qui devait être empoisonné.
Bah, vigilance, et il devait être quand même assez vigilant, vu qu'il avait reçu un message qui lui disait qu'il allait être... empoisonné. Donc, ce qui est étonnant dans le récit de Stéphane, c'est comment ce type-là, qui devait être très vigilant, ne se rend pas compte tout de suite qu'il a pu être empoisonné. Alors, je sais que le parapluie, ça paraît un peu gros, mais tout de même, il ressent quelque chose qui une piqûre, il doit tout de suite penser à ça, non? Et on a l'impression qu'il laisse passer un peu de temps, il se dit ça va passer.
Oui, c'est ça.
C'est étrange quand même.
Et puis, il ne fait pas analyser ce qu'il a dans les jambes.
Moi, tout de suite, je suis hypochondriaque, mais tout de suite, je me serais rué à l'hôpital.
Oui, mais enfin, quand on connaît l'histoire après coup, c'est vrai qu'on devient beaucoup plus vigilant, je crois. Et ce que disait Stéphane Bern est très juste, l'empoisonnement, voilà, c'est le crime de l'invisible, le crime de l'inattendu, donc le crime de la vie quotidienne, c'est souvent à table, là c'est un arrêt de bus, et d'où le fait que c'est un crime tout à fait terrifiant, parce qu'on peut en être atteint à tout moment. C'était le message, je pense, des services secrets bulgares et puis du grand frère russe.
Et ce qui est fascinant, c'est que ça reste gravé dans les esprits. C'est-à-dire, je me souviens encore, moi j'étais jeune, mais c'est vrai, l'histoire du parapluie bulgare, c'est même un sujet de blague maintenant, on parle toujours de parapluie bulgare. C'est entré dans la légende. En fait.
C'est entré dans la légende, oui, et peut-être dans la légende noire, effectivement, du bloc soviétique, c'est vrai, mais aussi dans l'idée qu'à ce moment-là, la Russie pouvait absolument tout contre ses adversaires, contre les dissidents, qu'ils soient sur son territoire ou à l'extérieur. Et c'est une vieille tradition qui remonte, on avait parlé du laboratoire des poisons, donc fondé par Lénine en 1921, dont la continuité d'ailleurs des pratiques tsaristes, ça c'est assez classique, et qui parvenait à aller empoisonner des adversaires, des Russes blancs, le général Wrangel, par exemple, qui a été empoisonné en 1921. ensuite à Bruxelles, ou alors des leaders des pays frères qui avaient cessé de plaire, un autre bulgare qui s'appelle Dimitrov, hein, qui a été empoisonné en 1949. Donc c'était pour montrer la longue main de Moscou et la capacité à frapper partout. Alors à coup de piolet, ça c'est Trotsky, mais à coup de poison...
Mais deux questions, les services secrets bulgares n'avaient pas les moyens de le faire eux-mêmes, ils avaient besoin de demander au KGB et aux grands voisins russes.
Apparemment, les moyens utilisés étaient d'abord du point de vue de la toxicologie particulièrement compliqués, donc il fallait ce laboratoire pour mettre au point cette ricine absolument terrible. Alors il y a maintenant aujourd'hui un antidote depuis 2010
qui
a été découvert, oui on est rassuré, été découvert par des chimistes français, des toxicologues français, donc rendons hommage à la science française. Et puis il y avait cet objet, parce que c'était quand même un dispositif assez compliqué que de mettre l'aiguille au bout du parapluie, puis cette petite bille dont vous avez parlé, et donc le petit frère s'est tourné vers le grand frère et voilà, a utilisé une technologie qui apparaissait, sans mauvais jeu de mots, une technologie de pointe.
La technique de l'empoisonnement, on l'associe souvent à la Russie maintenant, jusque dans des exemples récents, mais ça remonte à très très loin dans l'histoire. L'histoire du poison. Vous le datez, ça?
Je relisais là, mes sources, en particulier en histoire ancienne. On dit que sur le forum, au second siècle avant notre ère, à l'époque des Gracques à peu près, il y avait des gens qui se baladaient avec des aiguilles empoisonnées et qui piquaient les jarrets des Romains qui se promenaient sur le forum. Et donc, pour répondre à votre question, bien sûr, le crime de poison, c'est un crime qui remonte pratiquement à l'origine de l'humanité. On dit que la première empoisonneuse, ce fut Ève, quand elle donna la pomme à Adam. Bon, là, on n'est pas tout à fait dans les service secret. Mais après, vous avez raison, au cours du temps, le poison est une arme tellement vilaine, tellement déloyale, qu'elle est considérée comme étant l'arme de l'autre, de l'étranger, et souvent, vous avez raison, de l'oriental. Et le russe, c'est un peu l'oriental, c'est ce que dit Arkady Vaksberg dans son livre Le Laboratoire des Poisons. Voilà, finalement, les Russes ou les Soviétiques ne font que reprendre la vieille tradition des Grecs.
C'est vrai, mais cela dit, ça marque quand même ce monde de ce bloc de l'Est, justement, puisqu'on parlait de la guerre froide, et même du monde d'après, puisque on a tous en mémoire Viktor Yushchenko en Ukraine avec la dioxine. On voyait son visage se transformer quand même.
La tradition de la vie dure.
Absolument.
À l'Est.
La tradition de la vie dure. Alors, sauf que Yushchenko, lui, n'est pas mort grâce aux soins qu'il a reçus dans une clinique de Vienne, qui avait montré quand même qu'il avait une concentration de dioxine 6000 fois plus importante que la normale. Mais là, le message de l'Ukraine et surtout de la Russie qui était derrière, c'était là aussi de terrifier les gens. Yushchenko se baladait avec ce visage absolument horrible, grêlé. Alors, lui s'en servait pour dire, voyez, comme mes adversaires sont cruels, mais les Russes et les Ukrainiens russophiles s'en servaient pour dire nous avons le pouvoir de vous faire taire quand nous voulons.
Mais c'est une spécialité, l'empoisonnement dans l'histoire de la guerre froide, c'est une spécialité russe, ou est-ce que les Américains ont essayé de faire pareil?
Non, on peut peut-être pas renvoyer tout à fait dos à dos les deux blocs, mais les Américains ont été très enclins aussi à utiliser le poison contre des adversaires qu'ils n'arrivaient pas à battre autrement. C'est ça la logique du poison, c'est on est trop faible pour abattre un adversaire par les moyens directs, donc on utilise des moyens détournés. Et donc contre Fidel Castro en particulier, il est bien connu, les archives de la CIA ayant été déclassifié, qu'on a essayé de l'empoisonner avec des cigares. Il était grand amateur de cigares.
On a raconté
mais oui, histoire, mais c'est fou qu'il ait survécu, Fidel Castro, parce que il a tenté de l'empoisonner plein de fois.
Et aussi par une tenue de plongée sous-marine.
On a raconté ça, c'est formidable.
Mais c'est dingue, le luxe de
la plongée.
D'inventivité.
Et ça fait penser, comment dire, à cette tunique aussi dans l'Antiquité qu'on avait fait revêtir à un héros qui était censé lui dévorer la peau. Donc,
Russes continuent d'utiliser cette technique alors que les Américains ont cessé. Par exemple, au Venezuela, ils auraient pu essayer, mais ils n'ont pas fait.
C'est vrai.
Ne leur donnez pas des idées.
C'est peut-être un signe de civilisation des mœurs du côté américain. Oui, pour ce qui concerne la Russie, évidemment. Alors l'actualité, la brûlante, celle de Navalny, et puis avant, on a eu Skripal, Litvinenko. Bon, il y a une utilisation qui montre aussi, je pense, la puissance scientifique. De Russes qui sont capables de mettre au point des poisons très élaborés.
Sur Navalny, ça n'a pas fonctionné.
Tour d'Avalny, ça n'a pas fonctionné. Mais
enfin, il revient de loin. Hein. Il a été malade. Il était en Allemagne.
Il revient de loin. Et puis, je crois que le message est quand même le même. On n'empoisonne pas forcément pour tuer, contrairement au malheureux Markov. On empoisonne pour avertir. Et ça, c'est vraiment une sorte d'agent de propagande aussi qui est très, très...
Oui, mais
très
dans le même temps, regardez, le Sputnik 5, ils font des vaccins anti-Covid aussi.
C'est vrai.
Tout dénigrer, vous voyez.
Tout à fait. Mais bon, est-ce que ça rassurera pour autant effectivement ceux qui voudraient choisir ce vaccin? Je n'en suis pas certain. Mais en parlant du vaccin, vous savez, c'est la fameuse formule de Paracels au XVIe siècle qui définit le poison en disant l'important, c'est la dose. Mais c'est ça l'idée. Hein. Et donc, on retrouve cette idée que finalement, tout médicament est poison quand il est mal utilisé. Et vous l'avez dit, l'huile de ricin qui a laissé sans doute de très mauvais souvenirs nos parents ou grands-parents, pas notre génération, c'est un remède. Oui. Le forbe aussi, on trouve ça dans la liste des remèdes, moi dans mes chers traités du Moyen-Âge, et puis ça peut devenir un poison aussi.
La ricine avec modération, c'est un peu le message qu'on peut lancer sur l'antenne d'Europe 1 aujourd'hui.
Vous avez raison. En tout cas, voilà, on retient le coup du parapluie, et là, c'est pas du Gérard Rouri. Merci Franck Collard, je rappelle votre livre « Pouvoir et poison ». Histoire d'un crime politique de l'Antiquité à nos jours, c'est passionnant. C'est comme un roman, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont été empoisonnés. Après Agnès Sorel et Georgi Markov, Mathieu, vous nous brossez à présent le portrait, à 99% vrai, d'une star de la chanson qui, lui, s'est empoisonné tout seul.
Oui, comme un grand Stéphane, Robbie Williams n'a eu besoin ni des services secrets bulgares, ni d'une machination royale. Il s'est empoisonné tout seul, ou plutôt, nous le verrons, il s'est empoisonné. Ce qui est encore plus ridicule, mais avant d'entrer dans le détail de cette intoxication tragicomique, un point très important, je connais personnellement Robbie Williams.
Mais dis-moi pas que c'est pas vrai!
Je vous le dis pourtant. Alors que j'étais auteur sur un prime time de France 2 où il devait chanter, je l'ai croisé au sortir de sa loge et nous avons échangé longuement puisque je l'ai laissé passer et il m'a dit ces mots que je n'oublierai jamais. Thank you, man. J'en ai encore des frissons. 10 ans après, une telle proximité avec une si grande star, car oui, Stéphane, je sais que c'est pas votre époque, mais à chaque génération, ses idoles. Vous, vous cassiez les chaises de l'Alhambra en bissant Georgette Plana. Olivier Pouls, lui, quelques années plus tard, faisait Bruxelles-Paris en 104 SP Po Ninja sous la pluie pour venir applaudir François Valéry et chanter en chœur avec lui.
N'attendons pas que la mort nous trouve du talent.
David et moi, notre idole, notre modèle, le mâle alpha de notre adolescence, ce fut Robbie Williams. Bête de scène, charme anglais, tatouage de bad boy, électrisant des fosses de 100 000 spectateurs sans masque, dont 75 000 adolescentes sans culottes.
Ah oui, c'était le bon temps.
Oh oui, c'était notre idole. Quelques années seulement nous séparent, assez peu pour qu'on puisse s'identifier. Robbie est né en 74. Pourtant, quel abîme insondable entre nous et ce qu'il est devenu lui, une superstar mondiale, respectivement testeur d'amiante et speakerine de Stéphane Bern. Parfois avec David, on se dit que la vie est une pute. Puis, on se console en engloutissant de grosses quantités de vodka pomme, en se remémorant notre jeunesse avec... Mais avant cette prodigieuse carrière qui fera de lui un des plus gros vendeurs de disques outre-Manche, Robbie, c'est un môme de la middle class britannique. Un gosse comme tant d'autres, un peu joufflu, mais suffisamment mignon pour que sa mère découpe un jour une annonce dans la presse. Producteur cherche recrue pour création boys band. Alors, heureusement, pas celui-là. On est en 90 et Robbie devient membre du groupe Take That. Vous connaissez ça? Oh, on sent que ça vous plaisait. Oui, c'est le carton, mais voilà. Robbie a son petit caractère et très vite ça clash avec ses camarades. Il décide de se la jouer solo. La suite est le cliché même, l'abécédaire de la descente aux enfers d'un artiste monté trop haut, trop vite. Robbie sombre dans l'alcool, découvre la cocaïne. Vous connaissez l'engrenage, on commence par 1 gramme, 2 grammes, et puis, l'accoutumance aidant, on finit par appeler son dealer à 7h du mat pour lui demander direct...
30 grammes.
30 grammes à 7h du mat, je vais voir ce que je peux faire, monsieur Bern, mais même pour vous, c'est pas simple. Et puis... Être la star d'un boys band au début des années 90, c'est pas facile. Il y avait 500 filles devant chez moi, des bus venaient d'Allemagne et 50 nanas en descendaient parfois les nibards à l'air et cherchaient à escalader mon mur pour voir mon jardin ou pour me piquer mon linge qui séchait dehors. explique le malheureux Roby. Stéphane, ça se passe comment vous, quand vous faites sécher vos bretelles et vos carrières mettent dans le perche? Est-ce que ça excite un peu les producteurs de fromage de chèvre aux alentours ou pas?
Pas du tout, mais je veux dire, j'ai pas de carrière mettre.
Pas d'irruption dans votre jardin.
Ouais, non, moi ça.
Après sa rupture de contrat avec Take That, qui lui a coûté quand même 2 millions d'euros, ce qui vous situe un peu le niveau de confiance du gars, Roby commence par faire ce qui s'impose à toute personne saine d'esprit quand elle veut sortir de la drogue et de l'alcool, sympathiser avec les frères Gallagher. Vous vous souvenez des frères Gallagher, Stéphane? Pas les derniers pour la picole. Et puis, quitte à fréquenter des personnes saines, pourquoi pas devenir pote aussi avec George Michael? Cette reprise de Freedom sera son premier tube solo. On notera qu'il a bien fait de cracher les 2 millions pour sortir de Take That, car son contrat d'artiste EMI en 2002 va s'élever à 80 millions de livres et est encore à ce jour l'un des plus gros contrats musicaux de tous les temps. « Je suis riche au-delà de mes rêves les plus fous », confiera Roby. Oui, disons qu'il a un bel apport s'il décide un jour d'investir dans un bien immobilier de qualité, commentera Stéphane Bern plus pondéré. Et ce qu'il fera d'ailleurs, puisqu'il vient de se payer une villa au bord du lac Léman, voisin maintenant de ma maman, à 29 millions d'euros. Mmh. Hormis le marché américain sur lequel notre Roby se cassera toujours les dents, sa carrière est une success story, chacun de ses albums se vendant à des millions d'exemplaires et certains tubes devenant cultes comme Angel. Cette chanson, qui est, petit fun fact, la musique la plus diffusée lors des funérailles au Royaume-Uni, à autant vous dire qu'avec l'épidémie de Covid, les droits d'auteur ont dû tomber comme à gravelotte. Durant cette folle carrière, les frasques de Roby sont si nombreuses qu'elles sont impossibles à énumérer, car notre rockstar a un côté un peu clownesque, comme la fois où voulant étouffer, bouchez-vous les oreilles Stéphane, comme la fois où voulant étouffer une flatulence lors d'un vol, il a voulu appliquer, je cite, hein, je cite Roby, le coup du silencieux à deux doigts. Vous visualisez, mais il a malencontreusement laissé échapper un peu plus qu'une flatulence, élément organique qu'il a réussi à rattraper au vol, si j'ose dire, bon appétit chez vous. Ça, c'est mon Roby. Il a un côté un peu potache, comme ça, un petit peu.
Vous avez ça,
il l'a raconté lui-même, il en est fier. 25 ans de carrière, c'est aussi, bien évidemment, pour un artiste anglais, 25 000 cachets d'ecstasy avec George Michael. Il se souvient notamment d'une soirée où il s'était enfermé avec lui et Bono dans les toilettes et qu'il leur avait chanté trois chansons de son premier album. Je les ai gardés en otage en pleine montée d'extase, c'était dément, raconte-t-il, hilar. Bref, vous vous en doutez, George Michael n'a pas été une très bonne influence pour notre Roby.
Ah, les Grecs.
Oui, sans compter que la vie d'artiste, tout simplement, joua des tours à ce pauvre Roby, naturellement monogame, comme tous les hommes, mais confronté à des tentations qui n'arrivent pas à tous les hommes. C'est l'anecdote croustillante dite de la femme de ménage qui aspirait dans les coins. Roby loue un château pour les besoins de ses répétitions, normal, et un matin, au réveil, il voit une femme assise au pied de son lit. Il est dans le coltard, il se dit que c'est la femme de ménage. Quand soudain, la femme de ménage, qui a fini d'aspirer la moquette, lui propose de l'aspirer, lui. Vous vous doutez de ce que se dit Roby?
Salope.
Ah non, non, il se dit...
Ça me va super bien.
Bref, à cette époque de sa vie, je ne sais pas comment dire ça pudiquement, peut-être Stéphane, y parviendrez-vous mieux que moi.
Pèse à couilles rabattues.
Voilà, mais comme dirait Pouls...
Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir?
Mais non, il est jeune, il est riche, il est célèbre, il kiffe. Le soir venu, quand même, il explique à la propriétaire du château qu'il a trouvé la femme de ménage un peu bizarre. Celle-ci lui rétorque alors, mais la femme de ménage ne vient jamais le mercredi. C'était juste une groupie. Décidément, Roby est d'une naïveté confondante avec les femmes et aussi avec les poissons.
Ah, voilà.
Nous sommes en 2017. Roby constate que son corps n'est plus aussi ferme que par le passé. Il décide d'adopter un régime 100% poisson. Seulement voilà, à raison de 2 merlus par jour, Roby s'empoisonne rapidement au mercure. Son estomac trinque. Il est si mal que même la technique du silencieux à deux doigts ne lui permet pas de sauver sa moquette. Et oui, mais c'est ce qui se passe. Mais il faut regarder la réalité en face, Stéphane. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Mais Roby survit. Son médecin lui expliquera quand même qu'avec un tel taux de mercure, il aurait pu y passer à une semaine près. Donc on a eu chaud, Stéphane. Imaginez le monde sans Roby Williams. Franchement, moi, j'ai même pas envie. Un ami qui m'a dit un jour « Thank you, man ». Je ne m'en remettrai pas. Heureusement, on l'y reprendra plus. Fini les virées Picard pour Roby. Désormais, il est végétarien, c'est plus sûr. Alors, je l'adore vraiment, ce type. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a su rester simple malgré ses millions. Alors, bien sûr, il a un tout petit peu pris le melon, hein, mais toutes les stars le prennent un jour ou l'autre. Et croyez-moi, certaines plus vite que Roby.
Et alors, hier, j'étais invité chez BFM. Il y a que les animateurs qui sont maquillés. C'est n'importe quoi.
Oh, c'est scandaleux, Stéphane. C'est scandaleux qu'on ne vous maquille pas.
Mais attendez, on peut mourir juste en mangeant du poisson comme
en
ça?
En mangeant beaucoup
mais
de poisson.
Pas.
Ben oui, il a décidé de manger beaucoup de poisson. Si vous vous mettez à manger du poisson le midi et le soir, tous les jours,
ouais.
Mercure.
Oh. Mais vraiment,
c'est sa femme.
Pas
c'est
tous
sa
les
femme,
poissons,
en fait,
attention. Pas tous les poissons. Il y a certains poissons qu'on dit être en bout de chaîne alimentaire. C'est le cas du thon, par exemple, qui sont des poissons qui mangent les autres poissons.
Et, ben voilà.
Et donc, qui accumulent du mercure dans leur organisme. Et ces poissons-là, oui, il faut pas en manger trop.
Oui, mais si on mange des sardines.
Bah là, vous pouvez y aller.
Mais, et donc, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, Roby Williams s'est tapé beaucoup trop de thon. C'est ça que vous nous dites.
Probablement.
C'était vraiment une période étonnante de
cette vie.
Des cajots de thon qui arrivaient. Eh bien, merci, Olivier, pour cet éclairage. médical sur un sujet potache.
En tout cas, merci Mathieu, c'était à 99% vrai. Je crois que j'ai bien vu, enfin, tout ce qui me concerne était faux, donc, et c'est tout.
C'est tout, parce que le reste, tout est vrai, y compris l'anecdote des deux doigts coupés.
Ah non, mais c'est incroyable.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi continue avec David Castello-Lopez, notre enquêteur de l'histoire qui remonte pour nous aux origines des objets du quotidien. Et parfois, plus que des objets, David. Là, on parle de la barre de progression du téléchargement sur nos ordinateurs.
Tout à fait. Je crois que la seule chose qui est pire qu'attendre, c'est attendre sans savoir combien de temps on va attendre. Voilà, et ça arrive souvent qu'on sache pas combien de temps on va attendre. Un train SNCF, par exemple, qui s'arrête sur une voie sans raison, c'est embêtant. Mais c'est encore bien pire s'il n'y a pas la voix d'une dame sympa qui vous dit « Ne vous en faites pas, le train est cassé, nous aurons 3 jours de retard ». Vous voyez, c'est encore pire s'il n'y a pas ça. Eh bien, fondamentalement, la barre de progression téléchargement, elle est faite pour ça. Pour pas qu'on ait envie de se jeter par la fenêtre en attendant que les fichiers se téléchargent. Et si votre ordinateur, il vous dit « Temps de téléchargement, 22 ans », vous dites « Bah, 22 ans, c'est long, mais ok, voilà, c'est bon, au moins je sais ». Voilà. Alors du coup, évidemment, moi je me suis demandé qui a eu cette idée trop brillante et trop sympa. Bon, déjà, l'idée d'avoir une barre horizontale qu'on noircit petit à petit pour représenter le pourcentage d'avancée d'une tâche, elle date d'avant les ordinateurs. Ah bon ? Il y a des graphiques de la fin du 19e siècle utilisés dans certaines entreprises qui utilisaient déjà ce principe, sauf que c'était pas un téléchargement, c'était simplement la complétion d'une tâche, si vous voulez. Mais avec l'explosion...
On le remplissait oui, comme ça à la main ?
Oui, tout à fait. Ben, entre aujourd'hui et demain, on doit avoir fait,
on a avancé de 30%.
On a avancé de 30%, etc. et on continue. Mais donc, c'était fait à la main. Mais avec l'explosion de l'informatique, à la fin des années 70 et début des années 80, les gens, ils se sont retrouvés à attendre beaucoup devant des machines électroniques que des choses se passent. Et dès ce moment-là, il y a eu des proto-barres de téléchargement, par exemple sous la forme d'une ligne d'astérisque qui apparaissait un à un à mesure qu'une tâche se complétait. Mais c'était un peu comme ça, dans son coin, c'était rudimentaire. Pourquoi ? Eh bien parce que personne jusqu'alors avait étudié de façon systématique l'effet de ces barres de progression sur la psychologie humaine. Mmh. Et puis, en 1985, il y a eu un monsieur qui s'appelle Brad Myers, qui était étudiant en sciences informatiques, et qui s'est intéressé de près aux barres de progression. Il a demandé à 48 de ses camarades de thèse de chercher des trucs sur une base de données informatique, et il s'est débrouillé pour que certains aient le droit à une barre de progression, et d'autres pas. Et il a découvert 2 choses. La première, que les gens adoraient les barres de progression, et 2, surtout, que la fiabilité de la barre de progression, c'est-à-dire la mesure dans laquelle elle reflétait effectivement la vraie progression de la tâche, n'avait pas d'importance. Le simple fait qu'il y ait une barre était apaisant pour les gens.
Et ils verbalisaient ça, les gens? C'est-à-dire que j'aime la barre de progression,
En tout cas, ils préféraient vachement quand il y avait une barre que quand il n'y en avait pas. C'est ça le truc. Et donc, le simple fait qu'il y ait une barre, même si cette barre disait n'importe quoi, ça les apaisait. Et on voit bien pourquoi, parce que à partir du moment où vous avez une vague idée de combien de temps une tâche va prendre, eh bien vous pouvez vous lever par exemple pour aller boire du Schweppes, vous savez un petit peu. Mais plus profondément, et là je reprends les mots de Daniel Engberg, qui est un journaliste qui a beaucoup écrit sur les questions sur la question des barres de progression, vous voyez que je suis pas le seul. Plus profondément, la barre de progression, ça transforme un moment flottant et indéfini en une sorte d'histoire avec un début, un milieu et une fin. C'est pas une histoire de ouf, hein, quand même. Mais tout de même, il y a une animation un petit peu dramatique. Il y a l'espoir quand la barre accélère, le doute quand elle ralentit, des coups de théâtre avec ces barres qui se traînent et puis tout à coup s'excitent, vous voyez. Et grâce à ça, on se sent un peu mieux devant notre ordinateur. Et donc, à partir des études de Brad, non seulement les barres de progression se sont développées, mais elles ont commencé aussi à nous manipuler de plus en plus en utilisant ce qu'on appelle le mensonge. Voilà, parce que par exemple, vous avez déjà vu ces barres de progression avec des zébras qui avancent sur la surface de la barre. C'est pas une barre qui est toute pleine, c'est une barre où il y a des petits zébras.
Oui.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est que
pourquoi ils ont fait ça les designers ? Eh bien parce que ces zébras, c'est une illusion d'optique qui donne l'impression que la barre est en train d'avancer alors même qu'elle est arrêtée.
Salaud de Bill Gates.
C'est un peu comme si la dame du train SNCF arrêtée sur la voie, elle ouvrait son micro, vous l'entendez respirer, mais elle dit rien. Juste elle respire. Et vous savez qu'elle est là, et qu'elle pense à vous, et au fait que vous êtes dans un train, en train d'attendre. Donc vraiment, la prochaine fois que vous vous énervez contre une barre de téléchargement, pensez plutôt que ce serait encore plus énervant si elle n'était pas là.
Merci beaucoup, c'est très poétique en fait.
Oui, c'est
David
très poétique,
Castello-Lopez.
Le travail effectué chez le psy n'avance pas très vite, mais pour nous c'est du pain béni. Oui. Effectivement, on a droit à des sujets vraiment étonnants. Je ne regarderai plus jamais une barre de téléchargement comme avant. Effectivement.
On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio. et sur le site europe1.fr.
Et alors là, on souhaite que la barre de téléchargement, vraiment, ça prenne beaucoup de temps pour télécharger ce fichier, puisque Olivier Pouls arrive et on a à faire cuire une bonne raclette. D'où vient la raclette? Est-elle un plat commercial, comme certains? Il y a une polémique là-dessus. Il y a une polémique, c'est comme la tartiflette, on dit c'est commercial, c'est marketing.
On la fait pas de la même façon en Suisse.
Y a-t-il différents types de raclette? C'est un très point que vous soulevez, Stéphane. Olivier Pouls a toutes les réponses, je l'espère en tout cas.
Ah oui, oui, il y a un gros dossier.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Oui, alors
oui,
non.
Stéphane, vous imitiez l'accent suisse en antenne, c'est ça que j'ai cru entendre. Et vous nous disiez quelque chose d'important, Stéphane. Parce que, non, et vous connaissez quand même deux, trois trucs.
Oui.
Et vous dites, effectivement, la raclette, il y a deux types de raclette.
Oui,
il y a
la raclette suisse. La raclette suisse, où vraiment on met une meule, enfin la moitié d'une meule de fromage comme ça, on l'accroche, et puis ensuite, avec la chaleur, eh bien on racle, et ça vient de là, j'imagine.
C'est la seule et unique raclette.
Mais chez nous, maintenant...
Vous, les Français, vous faites autre chose.
Oui, on achète des morceaux de fromage déjà tout découpés, puis on les met dans le petit poêlon, et puis après chacun sa part de fromage. Voilà.
Alors, Olivier Pouls, rendons à César ce qui est à César. D'où vient la raclette? Qui l'a inventée et quelle est la vraie raclette?
Bon, alors Stéphane, qui a deux appareils à raclette chez lui, en connaît visiblement un rayon, puisque effectivement, c'est bel et bien en Suisse qu'est apparue cette raclette, probablement dès le XIIe siècle, dans le canton du Valais, où on n'appelait d'ailleurs pas cette préparation ou ce plat raclette, on l'appelait fromage rôti. C'était une tradition paysanne que d'approcher du feu les meules de fromage, d'attendre que le fromage commence à fondre et ensuite d'aller racler ce fromage sur l'assiette. Alors à l'époque, on l'accompagnait pas encore de plateaux de charcuterie, pas forcément de pommes de terre, mais plus vraisemblablement du pain. Et c'est vraiment un plat qui est resté pendant des années et des années confiné dans les vallées, sur les montagne suisse. Et c'est bien plus tard, en réalité, qu'il est arrivé en France et qu'il s'est popularisé. Alors, il y a une date très importante, c'est 1973. Les fromages Richemont, l'un des commerciaux des fromages Richemont, se balade en Suisse, il découvre ce fromage et il a l'idée d'en faire fabriquer l'équivalent en France et surtout de se mettre à populariser ce plat, ces raclettes qui, avec à ce moment-là l'essor des sports d'hiver, va évidemment rencontrer un très grand succès. Mais il y a un petit problème, c'est qu'on en est encore à des demi-meules qu'il faut mettre devant des cheminées et c'est pas très pratique, donc il faut aller la manger au restaurant, c'est pas faisable chez soi. Donc, en un premier temps, il faut populariser, puis surtout rendre accessible à tout le monde cet appareil à raclette. Et là, je deviens un peu David Castello-Lopez, voyez-vous. Et là, je vous dis, quand j'étais petit, avec Constance, manger de la raclette avec un appareil qui fait fondre chaque tranche une à une, c'est pas cool, parce qu'il faut attendre vachement de temps, et que du coup, les pommes de terre refroidissent, et toi, tu te gaves de charcuterie. Alors, il y a un mec qui se dit...
C'est drôle.
Non, mais attends, je vais inventer un appareil hyper bien, dans lequel chacun pourra faire cuire son propre fromage à son rythme, et c'est ainsi qu'apparaît, en 1978, le premier appareil individuel à 6 coupelles, celui que tous les couples mariés ont forcément reçu un jour. Il s'appelle le raclette grill de Tefal, et c'est la révolution dans le monde de la raclette. Oui, alors parce que depuis, évidemment, il a beaucoup évolué, des modèles pour 2, pour 10, pour 15, en verre, en pierre, en ceci, en cela. Voilà. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que la raclette va aussi se raffiner.
Est-ce qu'on peut parler du fromage? Pardon, Olivier. Parce que au fond, c'est quoi le fromage? Parce que maintenant, on vous le vend comme fromage à raclette. Mais c'est quoi ce fromage à raclette?
Alors ça, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Richemont, sont les fromageries Richemont qui vont faire une fortune là-dessus et qui vont conceptualiser l'idée de ce fromage à raclette. Alors d'abord en grande portion, puis dès 1992, je crois, les petites portions individuelles déjà prédécoupées. Mais malheureusement, il y a un petit problème avec ce fromage, je dois bien l'avouer, c'est que c'est un fromage qui est fait au lait pasteurisé. Or le l'authentique fromage, le raclette, comme on l'appelle en Suisse quand il est fait dans les règles de l'art, c'est un fromage au lait cru. Et ça change tout. Alors, si vous avez envie de vous faire une petite raclette un de ces jours, faites l'effort d'aller chez un fromager, demander un fromage à raclette au lait cru. Et vous allez voir qu'en termes de goût, ça n'a rien à voir. Alors, vous oubliez tous ces fromages à raclette qui sont maintenant aromatisés, alors, à la truffe, au cumin, au poivre, ou je ne sais quoi. C'est juste pour masquer le fait que le fromage en lui-même n'a strictement aucun intérêt. Mmh. Mais quand vous avez un vrai fromage, vous pouvez d'ailleurs en manger la croûte, elle est délicieuse aussi, un vrai fromage à raclette. Ça vaut vachement le coup de le faire. Et puis, vous accompagnez ça de quelques charcuteries. On parlait tout à l'heure de la viande des grisons, cette spécialité suisse, là aussi, d'une viande séchée de bœuf qui est
délicieuse. Décidément, quel pays, hein.
Mais vous pouvez, vous laisser aller à quelques autres fromages. Blanc, voilà, exactement. Et puis des pommes de terre, pommes de terre en robe des champs, évidemment. Je trouve que la rate,
et
par exemple.
Et puis des cornichons, avec les petits oignons. Mais oui, oui. Et puis, je donne une recommandation, ne pas boire d'eau.
Que du vin.
Ah non.
Parce que sinon,
ça fige
le fromage à l'intérieur de l'estomac.
Vous avez raison.
Et on est mal pour le dormir
après. Alors qu'avec un bon vin blanc.
Allez, vous savez, il faudra qu'on en parle un jour, mais il faut là aussi réhabiliter les vins de Savoie et les vins de Suisse aussi, puisqu'il y a des choses absolument remarquables, notamment dans des vins blancs secs là-bas, plein de caractère.
Exactement. Bravo Olivier, on retrouve toutes vos recettes délicieuses sur le site d'Europe1.fr. Stéphane Bern est dans les starting blocks pour nous dévoiler l'origine d'une expression qu'on a tous utilisée de nombreuses fois, enfin on aurait aimé l'employer plus de fois encore, rouler des pelles, d'où ça vient?
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Chaque jour, historiquement vôtre, c'est également l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, une expression très utile, Stéphane, qui nous a fait rêver quand on était adolescent. Rouler une pelle. Mmh. Est-ce que tu lui as roulé une pelle ou pas? C'était la grande question qu'on se posait avec David, qui répondait souvent non.
Et ça n'a rien à voir avec les pelles pour déneiger, évidemment, en Suisse.
On quitte la Suisse.
Rouler une galoche, rouler une pelle, rouler un patin. Eh bien, partons, si vous le voulez bien, avec enthousiasme dans l'univers du French Kiss. Le patin, ici, vient du verbe patiner, qui signifiait en argot caresser. Et pour dire caresser, on utilisait aussi peloter. Les joueurs de tennis, anciennement joueurs du jeu de paume, avaient une expression pour dire qu'ils s'échauffaient. Ils pelotaient en attendant la partie. On voit bien le parallèle entre les amateurs de la balle jaune et les amants fougueux qui, avant les choses sérieuses, n'étaient pas contre un petit tour de chauffe. Peloter a donné pélo. Oui, on disait rouler un pélo. Puis rouler un palo. Sachant que le pélo vient de plot, c'est du patois normand, cela désignait un gros pieu enfoncé en terre pour y attacher les vaches quand on n'avait pas de clôture.
C'est charmant, on est dans
un gros pieu enfoncé en terre, je ne souligne pas plus la métaphore quant aux vaches. Bon, c'est vrai qu'elles ont souvent la langue qui sort de la bouche quand elles ruminent. Tout finit par faire sens. À l'international, ils sont nombreux les pays à reconnaître la spécialité française. En anglais, vous connaissez, c'est le fameux French Kiss. Le baiser à la française. Alors qu'aux États-Unis, on dit to play tonsil hockey. Jouer au hockey avec les amygdales. On a bien l'image, hein, là. Ça va vraiment très loin dans le gosier. Alors qu'en Espagne, c'est meter la lengua hasta el ridalillo, mettre la langue jusqu'au foie. Eh bien. Je vous souhaite bon appétit à tous pour le goûter.
Bon appétit à tous et vous aurez noté, chers auditeurs, si jamais un jour vous croisez Stéphane Bern et que vous avez la chance de sympathiser avec lui, attention, quand il embrasse, il met la langue loin dans le gosier. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Nous le dédions à tous ces personnages de l'histoire qui sont morts, empoisonnés. Agnès Sorel, Gheorghe Markov et tous ceux qui ont eu ma chance, un soir d'être invités à dîner chez moi. Stéphane, quel destin vous a le plus ému, finalement?
Oh, Robbie Williams, ça, vraiment.
Est-ce que vous êtes Stéphane de Robbie Williams?
Oui, j'aimais bien.
Il a quand même un charisme.
Il a un charisme incroyable.
Je me suis surpris à revoir des vidéos de concerts et tout et d'avoir un peu des frissons quand même.
Il était en slip, il faisait des trucs en slip.
Et il a quand même ce clip, c'est Robbie Williams. Il commence, il fait un striptease et puis à la fin, il arrache sa peau et jusqu'au
squelette. Il a à la fois, comme vous l'avez dit, un côté bad boy. Et en même temps, il peut être très convenable.
Très convenable, pardon. Je sais qu'on a plus de temps, je veux juste vous dire ça parce que j'adore Robbie Williams. Il y a un album que j'adore, c'est quand il reprend Sinatra. Sa mère était fan de Sinatra, des crooners, et il lui a fait un album, qu'il aime ça aussi, avec un jazz band au Royal Albert Hall à Londres. Salle magnifique, orchestre magnifique, et il reprend Sinatra. Et franchement, c'est vraiment de très très bon niveau. C'est une super soirée. Voilà, ça s'appelle Swing When You're Winning.
Très bien, merci pour le conseil. Alors,
la midinette a parlé.
Cela dit, ne mangez pas du poisson trois fois par jour.
Ah non, hein, surtout, ouais. Surtout du thon. Évitez les thons, c'est ce que je dis toujours à David. Oui. Demain, un programme 100% comestible, Stéphane.
Oui, demain, si ce n'est toi, c'est donc ta sœur.
Ma sœur Jessica Noël, personnage fascinant. Vous avez
non, pas la vôtre. Ah non. Les sœurs de personnages célèbres ont réuni trois sœurs qui ont été éclipsées par leurs aînés. Eh oui, Marie-Sophie en Bavière, la sœur de Sissi. Pauline Napoléon, la sœur de
Napoléon.
De Napoléon, facile. C'est facile. Oui. Exactement. Et vous nous parlerez de Pippa Middleton, la sœur de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton.
Si ça peut vous distraire, Stéphane, je sais que vous adorez les têtes couronnées et tout ce qui gravite autour. Je suis là pour vous servir.
À demain, Mathieu. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.